Bienvenue ici. Ici, avec vos pieds. Ici, avec vos oreilles. Ici, pour découvrir une promenade sonore. Avant de commencer la balade, prenez le temps de régler le volume de votre appareil. Ne vous coupez pas complètement de l'environnement sonore et vérifiez que votre casque est dans le bon sens. Vous devez m'entendre dans l'oreille droite. Si ce n'est pas le cas, tournez votre casque. Voilà. Vous m'entendez bien dans l'oreille droite ? Parfait. Dans cette promenade, je serai votre guide. Je vous donnerai les indications de départ et de direction. Si toutefois vous arrivez avant moi à une bifurcation, attendez-moi, je suis juste derrière vous. Nous allons prendre notre temps et adopter un pas promenade. Alors, profitez-en, levez les yeux, ouvrez les oreilles. Bienvenue ici, à l'écoute des histoires d'eau de Saint-André-les-Alpes. Ici, nous commençons notre promenade devant une fontaine et la terminerons devant un ancien moulin. Ici, nous promènerons de Saint-André à la Mure-Argence. Ici, nous longerons le Verdon, traverserons l'Issole. Ici, d'hier à aujourd'hui, les eaux sont importantes pour les habitants. Elles ont fait tourner les machines et les roues des usines, des haltères et permettent l'arrosage des jardins et deviennent lieux de plaisir pour ceux qui en sont éloignés et viennent les admirer. Ici, elles et ils, vivant à Saint-André-les-Alpes, partageront leurs histoires d'eau intimes ou raconteront le bien commun. Nous sommes à côté de la fontaine. Que nous raconte la sensation de l'eau sur notre peau ? Nous allons quitter la fontaine. Vous êtes prêts ? Nous allons partir tranquillement en laissant l'église derrière nous. La grande rue est en face. Prenez-la sur votre gauche. On y va.
C'est joli, une rivière, quand elle n'est pas en crue.
On a tous des grands-parents qui ont travaillé de près ou de loin à cette époque, à ces industries locales.
Saint-André, c'était mon rêve pour plus tard, c'est-à-dire c'était mes racines et j'y reviendrai. C'était le rêve absolu.
Alors moi, si je n'ai pas chamate, je suis cuite, hein.
Cette fontaine, elle a une histoire parce que de l'autre côté, l'autre coin, c'est l'épicerie. Et c'est justement l'épicerie familiale de mon mari, de la famille de mon mari. Et mon mari me disait toujours, si on n'entendait pas cette fontaine, s'il y avait une panne d'eau, entre guillemets, comme dans Manon des Sources, on ne dormait pas. On se disait, mais ils avaient l'habitude d'entendre ce filet d'eau tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'elle était placée en plein milieu.
Dans la grande rue, une fontaine. Dépassez-la. Nous prendrons les escaliers sur la droite.
Le long de la rue principale, dans le côté donc extérieur à la rue, il y a les jardins, hein, les tout petits jardins. Et en général, chaque famille avait donc un bâtiment qui redistribuait en fonction des naissances des uns des autres ou des mariages. Et souvent, les maisons sont imbriquées les unes dans les autres. Il y a des pièces qui sont des fois dans le bâtiment d'à côté et ainsi de suite. Donc c'est assez amusant comme répartition de l'espace.
Après la fontaine, soyez attentifs pour ne pas rater les petits escaliers sur votre droite. Prenez-les. En bas des escaliers, vous devez voir la rue verte. Vous la voyez ? Prenez-la.
La majorité des familles étaient propriétaires d'un petit peu de terre, pas beaucoup. mais qui leur permettait en fait de subvenir à leurs besoins. Le fait que ce soit irrigué, ça a ajouté une grande valeur en fait au niveau de la production. Dans nos régions, on connaît bien en Provence les difficultés d'arrosage en été. Ce qui est arrosé produit, ce qui n'est pas arrosé produit pas. Toute cette zone, je dirais, qu'il y a là, c'est tous les petits jardins, vous allez voir, on va en voir en passant. Et c'est très sympa parce que le réseau de canaux passe absolument dans toutes les parcelles. À partir de là, toutes les parcelles que vous voyez ont l'irrigation. C'est étonnant, hein ?
Ta bouteille, elle est défoncée. Souffle dedans.
Au bout de la rue, un croisement. Sur votre droite, la placette et sa fontaine. Mais nous allons tourner à gauche, sur le chemin de la Sapinière.
Tu vas mettre ton parapluie dans la tête, là.
Toutes les ménagères du coin, là, elles venaient à cette fontaine. Elle me plaît, cette fontaine. Pour moi, elle a une forme parfaite. Elle est toute ronde, vraiment. C'est que ces deux morceaux emboîtés l'un avec l'autre. Elle est toute simple. Voilà, c'est peut-être ça qui me plaît, je ne sais pas.
Vous êtes sur le chemin de la Sapinière.
Ce quartier, on l'appelait le quartier des usines. Parce que sur tout le trajet du canal, et d'un côté l'Issole, de l'autre côté le Verdon, plus les canaux, il y avait des moulins, il y avait des minoteries, fabriques de draps, scieries. Il y a eu même des laiteries, il y a eu un tas de choses qui avaient rapport à ces roues.
Vous longez les bâtiments. Après les garages, le portail, il y a le mur de pierre de la bâtisse. À l'angle de la bâtisse, sur votre droite, un sentier discret. Prenez-le.
Les roues, elles ont servi à plein de choses. Et je vais vous faire un peu marrer parce qu'il y a une des roues, celle d'André Honora, elle a servi à fabriquer la première électricité à Saint-André. On avait 3000 têtes de moutons. C'est quand même logique que le drap qu'on fabrique à Saint-André soit du drap de laine, avec lequel on faisait les capes de berger, les protections des mulets, les couvertures à carreaux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des mérinos qui étaient presque blancs, il y avait des mérinos qui étaient café ou marron. Et alors on faisait, suivant la laine des moutons, on faisait des carreaux.
Vous venez de tourner à droite. À l'angle de la bâtisse en pierre, vous êtes sur le sentier. Il est bordé d'un petit canal. Il vous mène au jardin. Prenez votre temps. Nous vous dirons quand rebrousser chemin.
Voilà, je travaille pour la mairie de Saint-André. On s'occupe un peu de tout ce qui est l'urbanisme, les routes, bâtiments, enfin, tout ce qui se rapporte à la commune en fait. Voilà. Et notamment le canal d'arrosage, d'alimentation du village, qui donc est capté dans la vallée de l'Issole et qui se jette à la sortie du village de Saint-André au niveau des parapentes. On a à peu près un réseau de canaux, on doit avoir l'équivalent de 15 km à peu près de canal. Donc il y a un canal principal avec plein de diverses branches qui partent à droite et à gauche et qui se rejettent toujours dans ce canal principal à la fin, au final. Après, donc toutes les nervures, les annexes, c'est des petits canaux pour alimenter quasiment tous les quartiers du bas du village. Et donc, c'est pas mal de boulot parce qu'il faut curer tous les ans, il faut enlever le limon qui se dépose à l'intérieur. On essaie de mettre des buses, voilà, on essaie d'améliorer pour que justement on arrive à avoir un peu plus de débit d'eau et que surtout, après, à l'entretien, on soit moins embêté parce que nous, on a beaucoup de topes l'hiver, elles nous remplissent les canaux. Voilà, elles rentrent dans les, elles font des mottes, donc il faut tout. Alors, c'est sûr que si c'est buzé, on n'est plus embêté. Il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus de. Voilà. Mais c'est moins vivant. Voilà. Il y en a qui abusent, hein. Il y en a qui prennent toute l'eau, il y en a qui en prennent juste un petit peu, donc on essaie de réguler un petit peu aussi. Il y a des martelières, ce qu'on appelle des martelières, c'est comme des vannes qu'on essaie de régler, donc c'est pas évident. Les gens viennent nous voir directement et nous disent « bon ben là il y a un problème, quand ils sont inondés parce qu'il y a une bus qui est bouchée, ils nous téléphonent, puis bon les gens voilà ils nous le disent en général, ou alors ils viennent à la mairie, et ils posent une question, ils marquent, on a un cahier, ils le marquent dessus, et puis nous après on voit et on agit quoi. »
Et si nous repartions ? Revenez sur vos pas, et au bout du sentier, tournez à droite pour reprendre le chemin de la sapinière. Nous continuons nos histoires d'eau.
Actuellement, j'ai un terrain, enfin, c'est un exemple, j'ai un terrain où j'ai pas d'eau. Donc je suis en train d'essayer de construire une pompe pour arriver à mener l'eau par rapport à une source qui est beaucoup plus loin et qui est en train de se perdre, donc d'essayer de récupérer l'eau plutôt qu'elle se perde en fait. C'est des méthodes qui sont un peu compliquées, ça date de très très longtemps. Mais c'est des calculs à faire, voilà. Si ça marche, ça marche. C'est une pompe bélier qu'on appelle ça, voilà. Donc c'est assez vieux, oui. Donc c'est une pompe qui n'a pas besoin d'énergie pour fournir de l'eau, en fait. On va voir si ça marche, ça marche.
On voit bien que les consommateurs en eau d'arrosage sont déjà différents. Quand c'est des agriculteurs qui ont pour eux une vision comme un droit qu'ils ont. Un droit qu'ils ont d'arroser leur champ. Pour un gars qui aura un propriétaire qui a un petit lopin de terre où il fait son jardin, juste pour sa famille, c'est déjà un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il ne va pas vendre ses légumes, donc c'est pas quelque chose de professionnel comme utilisation. Et il va être très content déjà d'avoir de l'eau dans son jardin, d'avoir accès à cette eau. Et quelque part, il n'aura pas du tout la même exigence, hein, par rapport à la collectivité, par rapport à la production de cette eau, etc. Et donc déjà, ça fait des différences à ce niveau-là. Nous, par rapport aux paysans, aux agriculteurs de Saint-André, on doit veiller à ce qu'ils ne s'approprient pas non plus la quasi-totalité de l'eau, sous couvert que, eux, c'est un usage professionnel. Voilà. Et même si, à une certaine époque, ça se faisait, actuellement, on change un petit peu de façon d'utiliser cette ressource.
Sur le chemin de la sapinière, c'est tout droit, tranquillement, même si parfois l'eau gronde.
On a acheté ici, on voulait même acheter encore plus près à l'époque, parce qu'on voulait acheter au bord du Verdon, tu sais, en bas au tennis. Et à l'époque, comme mon mari était pêcheur, il voulait se rapprocher le plus possible de l'eau. C'est des coins qui sont recherchés, parce que bon, après, il y a le côté danger, mais bon, ici, il n'y a pas de pour l'instant. Quoique, André Marcel me disait que quand elle était petite, elle avait vu l'eau arriver à la placette. Les inondations. À la placette, dans le village.
Oui, il y a eu une grande crue en 94. Mais nous, on y a échappé de peu ici aussi, pour que l'eau était limite de venir là. Quoi. Mais c'était short quand même. Hein.
En 94, ouais. Il y a eu vraiment une très 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 grosse crue. Mais oui, ça a emporté des maisons, ça a emporté à Colmar, il y a eu des je ne sais pas combien de morts. Hein. Il a énormément plu au-dessus de Colmar, sur la cascade de la Lance. Et là, ça a tout emporté. Alors puis après, ça c'est le Verdon. Et j'ai des images des filets qu'ils avaient mis sur le lac pour retenir tout ce qui arrivait. C'est des machines, des bidons de peinture, tout. Blanc, le matériau avait été emporté complètement.
Mais j'avais travaillé pour nettoyer le lac, justement. Il a passé des mois et des mois à nettoyer le lac.
Au prochain croisement, prenez à gauche. C'est le chemin des Acates.
La Lance, c'était une petite rivière où on allait promener avant, parce que ça part de Colmar, et on va jusqu'au pied de la cascade, qui est le final. Et c'était une petite rivière, où il y avait des pins partout. Et toujours, je disais en promenant, je disais, un jour, s'il y a le feu dans ces là, les maisons, ce n'est pas le feu qui les a emportés, c'est l'eau qui a tout emporté.
On se laisse guider par le chemin des Acates et ses méandres. Il vous mènera jusqu'à la route.
Les gens, ils disent, vous êtes près de la rivière, s'il y a une crue, vous retrouvez dans le lac. Mais bon, on souhaite que ça n'arrive pas. Et nous, c'est la scierie. Voilà, on travaille le bois. On fait des planches, des chevrons, des bastrains, des madriers, des planches, des petits litos. Ah, ça dure depuis 50, 70 ans, à peu près.
Les menuisiers, avant, ils faisaient sécher les bois dans l'eau. Hein? Ils prenaient un gros noyer, le laissaient 4 ans dans l'eau, ils séchaient dans l'eau. Et il durcissait, il ne pourrissait jamais. Et il ne bougeait plus. Ouais. Il y en a beaucoup à la mur aussi. Il y a un bonhomme là. Ça fait combien? 10 ans, même pas. Il avait mis du bois séché. Il me l'avait porté pour le scier. Pas fendu, rien. 5 ans, c'était du cerisier ou je ne sais plus. Il faisait sécher dans l'eau. C'est bizarre, hein, sécher dans l'eau. Dans l'eau, ça enlève la résine, le tanin, tout ça, là. Voilà. Il y a quelques jardins un peu plus haut, ils prennent l'eau. Et nous, on est le 4 ou 5e jardin. Ils nous coupent l'eau. C'est la guerre. Ici, c'est la guerre. C'est la guerre pour l'arrosage. Il n'y a pas d'heure. À la mur, par contre, ils ont une heure pour arroser. Chacun, tel jour, a une heure pour arroser. Tandis qu'ici, le premier arrivé arrose. Et puis les autres attendent. Puis on arrose, on met l'eau. Et le temps qu'on mette l'eau, pof, elle est coupée plus haut. Oh, pof. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Hein. C'est village. Hein. Les gens, ils ne sont jamais contents. Pourtant, ils sont bien ici. Hein.
Vous allez arriver à la route. Avant de la traverser, juste vous dire que nous sommes aux limites de Saint-André. Vous voyez le panneau sur votre droite? Et derrière, voyez-vous le panneau de la Mure-Argence? Ces deux communes se partage la confluence du Verdon et de l'Issol. Traversez la route et engagez-vous dans la petite rue, face à vous. Ça y est, vous avez traversé la route. Vous êtes dans la petite rue. Nous allons la suivre dans ses méandres. Elle vous mènera jusqu'à une chapelle.
Eh bien, nous, ce petit vent, on fait du fromage de brebis. On est allé en brebis lait. La loi sur l'eau, l'impact qu'il y a, bon, mais les gens ils se rendent pas compte que nos anciens ont créé des terres, fin de compte, sur le lit de la rivière, entre guillemets, puisqu'il fallait qu'ils mangent les vieux. Et de là, ben, il y a eu les crues. Déjà la première, la plus mauvaise, ça a été la crue de 94, la crue du siècle qu'il y a eu. Et puis après, on a régénéré toujours des crues, des petites crues. Et puis là, ça fait 2-3 ans, on retrouve encore des grosses crues habituelles. Mais par contre, ben, elles vont emporter, elles emportent des terres agricoles régulièrement. Et là, on ne peut plus rien faire. On peut plus. Avant, les anciens pouvaient faire des gabions, on pouvait revégétaliser. Maintenant, on te dit, ben, attendez, on prenez des photos, on viendra voir.
Sur votre droite, juste avant la chapelle, c'est l'impasse Notre-Dame. Prenez-la.
Là, il y a un endroit, là, ça nous emporte des terres. Il y aurait un peu de travaux à faire avec une pelle, sans abîmer la rivière, mettre les arbres un peu au bord, mettre un peu de terre sur les arbres et revégétaliser bah, avec des osiers pour retenir les sols. Non, on ne peut pas. Maintenant, on te dit, bah, la rivière elle reprend ses droits. Il ne faudrait pas la laisser faire. Et elle emporte une terre agricole, il faudrait l'arrêter.
Au bout de la rue, c'est à droite, c'est l'impasse Notre-Dame.
On va aller voir où c'est qu'elle emporte les terres. Le pont de chemin de fer, je ne sais pas si vous avez vu où il est, mais l'Issol, elle est en train d'emporter le pont. Elle a pris les enrochements qu'il y avait au pied et on la laisse faire. Et pourtant, pour éviter ça, il y avait une action qui aurait coûté, allez, une petite action qui aurait coûté 500 euros. Il y avait un bout de disque à lever pour que l'Issol se remette dans son axe. Et puis non, on l'a laissé faire. Le jour où la pile de pont tombe, on va dire, ah ben merde, tiens, il faudra des millions d'euros pour la refaire.
Nous allons vers l'Issol et l'ancien pont. Le chemin est bordé d'arbres, de propriétés, de champs.
Nous habitons à la Mure, au chemin de la gare. Et nous sommes des murenques et des murenques. Alors moi, si je n'ai pas chamate, je suis cuite. Hein. Chamate, c'est cette grande montagne, là. Eh bien, si je n'ai pas chamate, si je ne prends pas chamate, Il faut que quand j'aille me coucher, je vois Chamat, quand je me lève, je vois Chamat. Ça me parle de mes grands-parents, ça me parle de mes parents, de mes frères, de... C'est toute ma vie. Moi, où je suis bien, c'est au jardin. Hein, au jardin, je suis... Demandez-y.
Une fanatique du jardin. Et tout à l'ancienne, sans...
Elle faisait tout à la main. Non.
Tout au liché. Elle faisait encore tout au liché. Bon, après, ça commence à être compliqué.
Un jour, j'ai pris un jeune. Oh, il m'a dit, moi, je vais vous aider. Ben, j'ai dit, tu viens quand tu veux. Il m'a dit, comment tu fais? Où est ton motoculteur? J'ai pas de motoculteur. Mais comment tu fais, alors? Eh bien, j'ai dit, regarde, tu vois, tu plantes ta bêche, tu plantes ton pied, tu la tournes. Mais tu vas bien, toi? Ben, j'ai dit, oui. Mais dis-moi, ça, je le fais pas. J'ai dit, dépêche-toi, lève-toi du milieu, je te file un coup de pied au cul que tu vas arriver dans un verre d'eau.
Vous êtes arrivé sur le pont? On s'arrête 2 minutes?
L'eau qu'on utilise, c'est l'eau des sources qui sont dans les montagnes, quoi. Qui sont en relation avec le climat. Si le jour il neige moins, on a souvent eu des problèmes d'alimentation en eau. Parce qu'on a une source là, deux sources en eau, quoi, qui alimentent complètement le village. Saint-André, c'est différent, puisque eux, ils prennent directement dans le Verdon. Tandis que nous, voilà, c'est délicat par rapport au climat, quoi. Le barrage, eux, ils ont quand même des priorités, quoi. La priorité, c'est l'alimentation de tout le monde. Ensuite, il y a l'irrigation aussi, et puis c'est la gestion de faire de l'électricité au moment où il en faut, quoi.
On avait du bois, des saletés sur notre parcelle qui va au Verdon. On avait droit jusqu'au milieu du Verdon de faire ce qu'on voulait. Maintenant, non.
Bon, après, c'est compliqué parce qu'il y a le cours d'eau, il y a la loi sur l'eau par rapport à la pêche. C'est parce qu'ils ne veulent pas toucher le cours d'eau par rapport à la pêche. C'est des choses relativement complexes.
Avant, on allait chercher notre bois avec les chevaux.
Là, c'est pas interdit.
Mais maintenant, tu n'as plus le droit de traverser le Verdon. Alors,
tu ne peux pas traverser le Verdon. Si tu traverses, il faut demander une dérogation.
Maintenant, si je voulais passer avec mes moutons, je ne pourrais plus passer.
La gestion des bois et des embâcles qui sont gérés par le parc, c'est pas simple. Hein. Ça va jusque dans le Var. Moi, ce que je disais, c'était qu'il faudrait que ça soit géré plus localement que...
Qu'est-ce que tu as fait, ce papillon?
Ce serait plus facile de gérer ces choses-là, les coupes de bois et choses comme ça, localement.
On repart, si vous le voulez bien. En quittant le pont... Prenez sur votre gauche. Nous allons longer la route sur le gravier qui vous mènera au parking du musée de la Minoterie, bordé par la rivière.
Alors l'Issole, on se situe sur le haut Verdon. On n'est plus entre les barrages, on est sur le Verdon naturel. L'Issole, c'est une rivière magnifique, c'est un affluent. C'est le meilleur, je devrais peut-être pas le dire, tout le monde va y aller, mais c'est le meilleur affluent du Haut-Verdon. C'est probablement la rivière où les truites se reproduisent le plus dans tout le bassin versant du Haut-Verdon. Donc c'est une rivière extrêmement régulière, c'est-à-dire avec un profil riche. Il n'y a pas d'assec, c'est une rivière qui reste toujours en eau, même si parfois pendant l'étiage, les eaux deviennent basses, la température reste fraîche, donc les poissons s'y sentent bien. Ça reproduit extrêmement bien des très belles densités de jeunes et de moyens poissons, petits moyens.
Arrivé sur l'esplanade, suivez les indications pour rejoindre le musée de la Minoterie en prenant le chemin qui longe l'Issole.
La société de pêche du Haut-Verdon a très bien travaillé. Ils ont réaménagé le milieu, ils ont enlevé des seuils qui empêchaient les truites de monter se reproduire au-dessus. Ils ont fait des parcours à valorisation touristique où on relâche les poissons, c'est des parcours d'inno-kill, avec des techniques douces, comme la pêche à la mouche, qui sont des techniques qui permettent facilement de remettre les poissons à l'eau sans les blesser. Donc une bonne gestion, pas de barrage. Voilà, on a une rivière qui va bien, et comme ça, comme c'est le cas depuis toujours. Donc, là oui, l'Issol, c'est vraiment un petit paradis, quoi, ça c'est clair.
Les pêcheurs sont, on pourrait les qualifier de sentinelles de la rivière. Donc les premiers souvent à se réveiller quand il y a une pollution, ce sont les pêcheurs. Et c'est très souvent eux qui donnent l'alerte. Et c'est vrai que l'écoute par rapport à la parole des pêcheurs a beaucoup changé ces dernières années. Que ce soit au niveau des services de l'État, que ce soit les communes, que ce soit les gestionnaires des stations d'épuration. Le résultat, c'est que les rivières sont quand même un peu plus sous surveillance, un peu plus en bonne santé, et que cela bénéficie bien sûr à tous les usagers, hein, que ce soit l'usage propre de l'eau, c'est-à-dire pour la consommation, par exemple humaine, mais également pour tous les aspects récréatifs et tout simplement environnementaux.
Goûter les bords de la rivière, vivante, elle fait remonter les souvenirs et battre les ailes des oiseaux.
On peut facilement entendre les sons des oiseaux qui sont très riches, hein, au niveau des bordures de rivière. On a bien sûr beaucoup de petits passereaux. Alors ça peut être des passereaux très communs qu'on rencontre dans d'autres milieux, hein, comme par exemple des mésanges ou des petits insectivores comme des rouges-gorges, etc. Mais on peut aussi avoir des oiseaux qui sont plus inféodés à des milieux humides, comme les bergeronnettes, hein, qui sont très présentes en période estivale parce qu'elles se reproduisent en fait dans les gravières en bord de rivière. Et également, on a un oiseau qui est très commun ici, mais qui est considéré comme rare ailleurs, qui s'appelle le cingle plongeur, qui est un petit urdidé qui affectionne les rivières à courant rapide, aux eaux très claires et riches au niveau des petits invertébrés dont il se nourrit. Et c'est très amusant parce que c'est un oiseau qui n'est pas farouche, et qui est très mignon à observer, qui passe son temps à regarder les gens en bord de rivière et en hochant la queue et en s'activant à chercher ses proies.
Nous sommes arrivés au musée de la minoterie. Nous sommes arrivés à destination.
C'est vraiment un moulin qui est hydraulique, donc du coup la force de l'eau, cette eau qui tombait dans la turbine qui est juste en face de nous, vous la voyez tout au fond derrière la vitre, cette eau elle tombe dans une conduite forcée, elle fait tourner les pales qu'il faut imaginer à l'intérieur de cette structure en métal. Et en fait ce qui est assez génial c'est que du coup ça transforme cette eau en mouvement et ce mouvement il est récupéré par une poulie qui est à l'arrière. Et on voit la courroie qui traverse le mur, vous voyez, tout en, au fond, à droite. Cette courroie, elle traverse le mur, elle rejoint une autre poulie de l'autre côté, qui relie un arbre de transmission, avec plein de poulies, qui renvoie le mouvement à toutes les machines qui étaient au-dessus, donc tout en façade sud. Et du coup, ben, c'est sans l'eau, il n'y a pas de mouvement, donc il n'y a pas de fonctionnement des machines, donc il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de bruit, mais il n'y a plus de rythme non plus.
Mes rapports à l'eau, c'est, je veux dire, la pêche avec mon papa, les barrages à Méhouille, là, parce que là, tous les enfants de Saint-André, leurs ancêtres et leurs enfants, ont fait des barrages à Méhouille. Hein. Si vous voulez, c'est un rapport dans le temps, c'est immuable. C'est-à-dire, mon papa m'a montré des barrages qu'il avait fait quand il était petit, où il y avait encore quelques caillasses, et moi, je les continue avec mon frère. Et après, mes enfants... je leur ai montré où il y a encore un petit barrage sur l'Issol qui est toujours un petit peu aussi, que mes enfants ont continué. Donc si vous voulez, c'est aussi l'histoire de Racine. Je pense que c'est la rivière, les deux rivières, parce que bon, on parle toujours du Verdon et de l'Issol ensemble. Je pense que c'est un peu le lien entre les générations et un peu le lien, je ne sais pas, hein, moi je vous dis comme ça me vient, mais pas seulement entre les générations, peut-être le lien entre les différentes histoires du village aussi.
C'était Histoire d'eau de Saint-André-les-Alpes. Une promenade sonore proposée par le Parc régional du Verdon coproduite par Radio Grenouille. Nous remercions toutes celles et ceux, habitants, écoliers, professionnels, responsables d'associations, élus, de bien avoir voulu nous rencontrer et nous abreuver de toutes leurs petites et grandes histoires. Histoire d'eau de Saint-André-les-Alpes. Une réalisation signée Pascal Messaoudi et Nelly Fléchère. Retrouvez les histoires d'eau de Saint-Julien-le-Montagnier et de Bauduin sur le site www.promenade-au-pluriel-sonore.com.